Vous écoutez RTL.
Il est 14h02 sur RTL. On retrouve Sidonie Bonnec et Thomas Hugues. Alors comme ça, on se met au yoga.
Mais oui, bonjour Christelle.
Vous aimez ça, le yoga ? Qui fait du yoga, c'est pas triste. Hein.
Je voudrais voir ça.
Moi, je suis un peu réfractaire, mais je suis sûr qu'on va me convertir. Allez, bon après-midi, Christelle.
Bon après-midi.
Et à demain. On est ensemble jusqu'à 15h. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les curieux. Merci d'avoir choisi la première radio de France. Merci d'avoir choisi RTL. Bonjour Sidonie.
Vous ne serez pas déçus. Bonjour Thomas. Bonjour les curieux. Juste après le passage de la tempête Gabriel, on va découvrir les coulisses d'un bulletin météo. Mais comment est-il fabriqué? Comment Louis Baudin travaille pour nous guider si finement chaque jour sur RTL? Vous verrez, derrière, c'est la grosse artillerie des milliers d'ingénieurs, des ballons, des radars, des satellites et des logiciels forcément super costauds. Tout sera, ce sera vers 14h30 et sans savon.
On verra bien. Et...
ou avec une ou deux postures de yoga, ça
voilà,
devrait aller.
Voilà, ça devrait aller mieux. Ben justement, on se plie en quatre tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour bien choisir son yoga, où le pratiquer. Et on va aborder aussi assez rapidement tous les petits a priori sur le yoga.
Sidonie Bonnec.
Il y a le yoga nidra, qui est un yoga très méditatif.
Thomas Hugues.
Il y a le yin yoga. Là, il va y avoir des postures. On va les garder très longtemps et ça permet un étirement en profondeur des muscles.
Sur RTL.
Un cours de yoga, il peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez ou que vous le pouvez.
On découvre l'origine et les bienfaits du yoga avec notre invitée Isabelle Morin-Larbet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes
bienvenue.
Prof Merci. De yoga depuis plusieurs décennies, présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga. On écoutait un extrait d'une chaîne YouTube. Il y a Margot qui nous donne des conseils sur différents types de yoga. Vous dites quoi? Vous dites super que le yoga soit enseigné même avec les nouvelles technologies, même avec Internet?
Alors, rien ne vaut quand même un cours de yoga avec un professeur en vrai, en face, hein, parce qu'il va vous guider, il va regarder si vous êtes bien placé, si vous respirez correctement, il va voir aussi si vous avez bonne mine, mauvaise mine. Il y a tout un côté très relationnel, hein, humain dans la pratique du yoga, qui est essentiel. Alors, quand on est très très loin, quand on est empêché, parce qu'on est au fin fond, je ne sais pas de quelle région de France...
Et qu'on maîtrise déjà les bases, peut-être.
Et qu'on maîtrise les bases, on peut bien sûr travailler comme ça. Mais honnêtement, c'est pas... Ça ne donne pas du tout la même, bah, la même chose.
J'ai essayé avec Thomas dans le bureau de la curiosité. Vous pourrez regarder ça sur Twitter. C'est vrai que je lui demandais de faire plusieurs postures et il ne faisait que l'arbre. Mais il le faisait bien, l'arbre. Il restait planté.
Encore,
hein.
Tout est relatif. Bon, allez. Moi, j'y connais rien. On va poser les bases, si vous voulez bien, Isabelle Morin-Larbet. C'est quoi le yoga? C'est une technique de respiration? C'est beaucoup plus que ça?
C'est beaucoup plus que ça. En fait, le yoga est une philosophie. Hein. C'est un système philosophique de l'Inde, donc qui remonte à des millénaires. Et la pensée du yoga, c'est un darshan. Alors, peu de mots sanscrits, mais celui-là, il est important parce que ça veut dire un point de vue. Un point de vue et un regard qu'on pose sur le monde. Et l'Inde vous dit, il y en a au moins 6. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une vérité. Elles sont multiples. Et que le yoga, qui est un système philosophique, qui va passer par le corps. Et c'est une seule philosophie, hein, qui passe du corps à l'esprit et au souffle.
Donc ça veut dire quoi? C'est quoi le point de vue sur le monde du yoga pour bien comprendre? C'est qu'il faut tout relier, ça, un ensemble?
Voilà, ouais. Absolument. C'est-à-dire que nous ne sommes pas posés dans l'univers comme ça, comme des petites choses. Nous sommes... relié à tout, c'est-à-dire au souffle, à la terre, à l'autre. Donc c'est une relation. Et puis le mot yoga veut dire relier. Hein. Ça donnait yug, joindre. Et c'est vraiment l'idée de relier tout ce qu'est l'être humain.
C'est du sanskrit.
C'est du sanskrit.
C'est du sanskrit.
Si vous voulez, le français est pétri de racines indo-européennes. Hein.
Voilà. C'est pour ça que les positions aussi, les postures plutôt, pardon, sont la le chien tête en bas, les salutations au soleil, on s'adresse à la... On utilise la nature,
absolument,
les animaux, la
tout
flore,
fait,
la faune,
tout à fait.
Ça,
si vous voulez, c'est à l'imitation de ce qui nous entoure. Le corps va imiter les formes qui nous entourent pour avoir quelque chose, en fait, profondément de cette qualité d'être. Alors l'arbre, puisque vous avez expérimenté l'arbre de façon formidable,
elle le fait très très bien.
Vous n'avez pas encore vu la vidéo, manifestement.
Eh bien écoutez, je vais me régaler après. Mais l'arbre, c'est majeur. C'est-à-dire, c'est aussi, je dirais, le végétal qui relie la terre et le ciel.
Tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut la décrire, cette posture de l'arbre.
Tout à fait.
Donc c'est les mains. Alors faites-le, vous le ferez mieux que moi. Décrivez-le.
Alors, en fait, c'est un équilibre sur une jambe, donc il faut être tout à fait centré. La jambe qui est levée, elle peut être à la cheville ou au genou ou beaucoup plus haut. toute la colonne vertébrale est étirée vers le ciel et les mains sont portées soit devant le cœur, alors ça c'est vraiment l'arbre, et soit les mains sont portées vers le ciel et ça devient la posture de l'ascète, du renonçant, celui qui va attendre quelque chose. Voilà, on retrouve un peu les stylites de la tradition religieuse, mystique, des premiers temps chrétiens. Hein. Il y a quelque chose qui est similaire aussi dans des positions du corps, hein, qui rappelle des choses.
Isabelle,
donc, l'arbre,
ouais.
je finis sur l'arbre, hein,
bien sûr.
Il est l'élément végétal qui a des racines dans la terre et dont le faîtage est dans le ciel. Donc il est à l'imitation de l'homme qui s'est redressé. Nous nous sommes redressés, nous sommes devenus humains, et par ce redressement, nous avons aussi acquis quelque chose qui va être majeur, c'est la parole, la capacité de dialoguer, de parler avec l'autre. Donc l'arbre, il est fondamental dans la tradition.
C'est vrai que c'est une philosophie, le yoga, mais c'est aussi, alors peut-être que ça va vous faire sursauter ou va vous mettre en colère, mais c'est un sport aussi, le yoga, parce que quand on fait cette posture de l'arbre, on se muscle, on muscle les muscles profonds, il y a quand même un travail physique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sport ?
Non. Non, parce qu'il n'y a pas de compétition. Quelle est la notion de sport ? Si vous voulez, il y a un travail du corps, mais magnifique. Hein, ça vous fait des abdominaux, ça vous fait des dorsaux.
Touchez Thomas, touchez.
Ah non, j'oserais pas, j'oserais pas.
Pas après le déjeuner. Donc, ça vous fait une musculature tout à fait solide et stable. Hein, c'est l'idée d'ailleurs, hein, d'être en très bonne santé et de sentir son corps, de partir du corps pour avoir des sensations, pour pouvoir en fait aussi être dans la vie de façon très, très efficace. Mais le sport, qu'est-ce que ça veut dire, sport ? Ça veut dire une compétition ? Ça veut dire des résultats. Et en fait, ce n'est pas du tout l'idée du yoga. Mais il y a un vrai grand travail corporel.
Alors, on a encore plein de questions à vous poser sur la respiration. Je pense que c'est très important quand on pratique le yoga. Puis alors aussi, on va apprendre les mots. Vous allez nous les expliquer. Le mantra, les chakras, les asanas. C'est quoi ces mots qui viennent du sanskrit ? Réponse à venir sur RTL. À tout de suite.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Le yoga du papillon. La curiosité est un vilain défaut. Pour cet exercice, tu peux t'asseoir sur un coussin. RTL, tiens tes pieds avec tes mains et rapproche-les le plus près possible de ton corps.
Vous pouvez respirer moins fort, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture.
Tiens, on a reconnu Camille Cotin, la connasse qui fait du yoga, c'est pas moi qui le dis, c'est le personnage formidable qu'elle incarne. On découvre les bienfaits et l'histoire du yoga. D'ailleurs, c'est le salon bien-être médecine douce et Thalasso jusqu'au 4 février à Paris, porte de Versailles, qui nous a donné un peu cette idée et cette envie. Et puis aussi ce chiffre incroyable, 2 millions de Français pratiquent le yoga. On en parle avec Isabelle Morin-Larbé, présidente de la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga et enseignante de yoga. Il y a plein de mots qui tournent autour de cette pratique, de cette philosophie qu'on emploie comme ça, sérieusement ou pour s'amuser, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Par exemple, le mantra, c'est quoi ?
Alors, mantra, c'est fait de deux syllabes. Man, qui a donné homme, hein, pensée. Hein, donc, et tra, c'est l'étirement. C'est-à-dire, deux, trois syllabes qui vont donner une intention à une pratique, qui sont souvent aussi des mots ou des récitations très courtes qui peuvent être colorées aussi d'une intention religieuse. Hein. Faut faire attention
par
avec
exemple.
Le mantra.
Compris, excusez-moi, je vous interromps. C'est ce qu'on prononce avant de,
oui, mais normalement,
de faire une posture, c'est ça ?
Mais normalement, non. Enfin, je vais être un petit peu rigoureuse. Le mantra, normalement, si vous voulez, pour les Indiens, c'est très sacré. C'est comme si vous récitez, par exemple, un début de prière.
D'accord.
Bon, il y a un côté très sacré qui peut être religieux. Donc, le mantra prononcé à tout bout de champ et n'importe comment est très choquant pour les Indiens parce que c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une puissance de la parole et que si vous récitez quelque chose, c'est que vous y adhérez. Et si vous n'y adhérez pas, ça devient folklorique et ça n'a plus la puissance en fait d'une parole prononcée.
Est-ce que c'est pareil pour les chakras ? On emploie souvent ce mot, ouvrir les chakras.
Ouvrir les chakras.
Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où ils sont.
Moi, j'adore ouvrir mes chakras. Moi.
C'est vrai.
Bon, alors on va peut-être les laisser tranquilles, les malheureux.
Oui.
Bon, ce sont des points d'énergie qui ne sont pas dans le corps vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une conception du corps en Inde avec des enveloppes différentes qui partent de l'enveloppe physique, hein, qu'on va appeler l'enveloppe Anamaya Kosha, c'est l'enveloppe de nourriture, c'est le corps et la chair. Et puis ensuite, vous avez une enveloppe plus énergétique, ce qu'on va traduire parfois par une aura ou des mandorles dans la tradition chrétienne hein, qu'on va dessiner. Et puis vous en avez trois autres, là je ne vais pas m'étendre parce que ce n'est peut-être pas très, très utile là, mais ils considèrent qu'il y a cinq enveloppes différentes qui vont entourer le corps de l'être humain.
Donc il faut les laisser tranquilles parce qu'ils se débrouillent tout seuls, c'est ça les chakras ?
Parce que dès que vous commencez à bouger... Ben, ils se mettent en mouvement.
D'accord.
Bon, et qu'on n'a pas besoin de se dire je vais travailler tel chakra.
C'est pas comme des points d'acupuncture.
Non, justement, c'est pas physique. Si vous voulez, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est des points d'énergie, mais qui sont dans une enveloppe vibratoire. Donc dès que vous commencez à faire une posture, l'ensemble se met en mouvement.
Isabelle Morin-Larbé, est-ce qu'on peut pratiquer le yoga à tout âge ?
Oui, bien sûr.
À partir de quel âge ?
Alors, maintenant, on fait une initiation aux petits. Voilà, 4-5 ans, et alors là, c'est plutôt des choses très rigolotes, d'enchaînement, avec des postures d'animaux. Et... Bon. Mais je dirais que vraiment, le yoga, à partir de 15 ans, 16 ans, donc là aussi, un moment important pour l'adolescence, qui va relier quand même le corps, le souffle et l'esprit. Hein. Il y a quelque chose qui doit être posé dans cette harmonie des trois espaces hein, d'humanité. Et puis, on peut continuer, j'ai des élèves qui ont 92 ans.
Et qui continuent de pratiquer des asanas. Ça veut dire quoi? On ne l'a pas défini. Ce mot.
Alors asana, ça veut dire posture, c'est-à-dire asana, ça nous a donné l'assise, assiette. L'assiette, par exemple, quand on fait du cheval, hein, c'est être bien posé, bien assis, bien calé. Donc les asanas, c'est des postures, c'est des formes, mais toujours centrées. Le centre est toujours là, posé.
Isabelle Morin-Larbé, est-ce qu'une séance de yoga, ça commence toujours par de la respiration ? Est-ce qu'il faut apprendre à respirer ?
Oui, parce qu'on ne sait plus respirer.
Mais pourquoi ?
De moins en moins. C'est-à-dire qu'on respire à l'économie. Hein.
Oui.
En plus, la vie actuelle, elle vous essouffle. Hein. On est de plus en plus rétréci. On est tout le temps un peu hors d'haleine, hein, en train de courir après le temps.
C'est le béaba, la respiration, pourtant.
C'est ce qui nous fait vivre.
Hein. On respire comment, alors, Isabelle ?
Alors,
une bonne respiration, ça se passe comment ?
Ça se passe comment ? Alors, c'est de faire respirer, en fait, de faire bouger trois étages respiratoires qui sont sous les clavicules, les côtes et le diaphragme qui descend. Donc ce qu'on va appeler sous-costal, thoracique et abdominal. Et que très souvent, on vous fait travailler soit l'abdominal uniquement, en oubliant costal et sous-claviculaire. Et les poumons, les pointes de poumons, elles montent jusque sous vos clavicules et au-delà.
Mais comment on fait pour écarter
comme ça ? Comment on sent
ça,
ouais. Parce que c'est pas si facile. Là, je suis en train d'essayer tout en vous
oui,
écoutant.
Bah, si vous voulez,
je me rends pas compte de où
il y a que votre ventre qui bouge, c'est
non,
bizarre.
Ça, c'est parce que j'ai un peu forcé hier sur le couscous. Bref, je vais pas raconter ma vie.
Non, absolument. Mais alors, par exemple, on vous propose de vous mettre à plat dos et de poser les mains, par exemple, sous les clavicules. Et de faire attention que vous pouvez guider votre respiration.
On le sent.
Et on le sent, et on le perçoit. Et c'est ça qui est formidable quand même, c'est qu'il y a un côté très pratique, pragmatique, au souffle. Et ce souffle que vous ne voyez pas, on le voit pas, hein, le souffle, eh bien, c'est le corps en mouvement qui va vous dire qu'il est placé. Donc il y a une dynamique du corps qui vous met en évidence ce travail du souffle. Et en fait, vous ne vivez que grâce au souffle. Hein.
Mais ce souffle, il faut, dans une séance de yoga, il faut le pratiquer toute la séance, j'imagine.
Ah,
c'est
sûr.
Pas juste au début.
Ah non, mais bien sûr, il va accompagner chaque posture.
Très bien, je vais allonger Thomas pendant la publicité. Le yoga donc, est à la mode, et forcément, il y a des petits malins qui en profitent. Attention aux contrefaçons, on vous donne les bons conseils dans un instant sur RTL. Allongez-vous.
14h, 15h.
Bonjour à tous, aujourd'hui, on va faire un cours de yoga pour s'affiner.
La curiosité est un vilain défaut.
Maintenant que je suis aplati sur les tapis, vous prenez ma main, vous mettez bien les pieds sur mon ventre et vous tirez en arrière.
Sur RTL.
Et là, voyez-vous, je ne peux plus bouger.
Extrait des 12 travaux d'Astérix, tout le monde tente le yoga, même du yoga pour garder la ligne. Vu la tête que vous avez... Isabelle Morin-Larbé, notre invitée, prof de yoga depuis plusieurs décennies, présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga. Bon, le yoga pour garder la ligne...
Écoutez, c'est accessoire. Hein. Bon, ça vient en plus, mais c'est pas le propos non plus.
Oui, ça muscle bien le yoga ?
Ah oui, ça muscle, bien sûr que ça muscle.
Et ça muscle en profondeur, c'est
et
ça ?
Et en profondeur, voilà. Et sans effort force, hein, sans être en train de transpirer du tout. Parce que justement, la respiration, on en parlait tout à l'heure, à chaque fois que vous allez inspirer, expirer, vous allez travailler vos abdominaux, vous allez travailler une position du corps, vous allez travailler des étirements et des tonifications aussi. Hein.
Alors, Thomas a l'air bien convaincu par le yoga, il faisait peut-être pendant le disque.
Non, mais
Aum
est un et le son sacré par excellence pour l'Inde. C'est-à-dire, c'est le son qui a créé le monde,
Je comprends pas moi.
Alors, Pardon, je vais vous faire un petit détour par la Bible.
Allez-y.
Au commencement était le Verbe. Donc, c'est un mot en action, le Verbe. Quelque chose qui se crée justement par la parole. Tout à l'heure, je vous ai dit, on s'est redressé, on s'est mis debout, on a eu accès à la parole. En Inde, c'est la même chose. Le son vibratoire, le Aum, alors c'est pas O-M, c'est A-U-M. Aum.
Ça donne quoi, le son ?
Alors, je vous le ferai pas parce que je
Mais ça part des entrailles.
Ça part des entrailles et puis c'est un son vraiment très, très, très sacré et je le considère comme très sacré.
Donc vous ne le faites pas parce que ça a un sens religieux.
Absolument, parce que le Aum, le A, c'est le son du Dieu qui va créer le monde, Brahma. Le OU, c'est le son du Dieu qui va maintenir l'ordre, l'organisation du monde, c'est Vishnu. Et le dernier, le M, c'est Shiva, qui va détruire ce qui doit être détruit. C'est-à-dire, c'est pas un dieu destructeur comme ça, c'est tout ce qui est obsolète doit disparaître pour que quelque chose renaisse. Donc, dans ce son, vous avez l'intention religieuse, hein, pour les hindous, de maintenir un équilibre du monde. Donc, il n'a pas à être, pardon, je vais être un peu là aussi, à être galvoté, c'est-à-dire qu'il faut complètement adhérer à ce que l'on chante.
Donc on le fait pas dans les cours de yoga en France, par exemple.
Mais si, il est beaucoup fait, mais ça
c'est
part
du folklore, non, c'est ça ?
Alors un petit peu, mais ça part parfois d'un bon sentiment, dirais-je. Mais si vous voulez, je trouve qu'il est essentiel de savoir ce que l'on fait, pourquoi l'on fait, et dans quel cadre on le fait.
Bon, voilà. Alors on va faire une liste et on va pas leur consacrer trop de temps parce que ça va à l'encontre de ce que vous venez de nous expliquer, mais de ces yogas improbables là, le goat yoga ça, aux États-Unis, donc goat comme chèvre.
Oui.
Donc ils s'entourent de chèvres pour faire du yoga.
Oui, vous voyez bien, c'est complètement, je dirais, les pauvres petites chèvres, elles ont peut-être autre chose à faire que d'avoir des gens qui vont être autour d'eux. Alors. Je vais vous dire, c'est quand même de l'anecdote totale. C'est pas du yoga. Le yoga.
C'est du business, là.
Alors, certains.
Il faut inventer un nouveau truc pour attirer du monde.
Alors, si vous voulez, le côté le pire de tout, c'est le tequila yoga ou yoga bière. C'est-à-dire, vous êtes sur un tapis de yoga, vous avez votre canette de bière. Et alors, je sais bien que le yoga peut amener à des états, je dirais, d'enivrement spirituel.
Mais sans bière et sans tequila.
Mais sans bière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Donc. Mais vous voyez bien, c'est complètement anecdotique.
Et le Bikram yoga, par exemple, qui a une grande popularité.
Il y a des salles, hein,
Des salles, en France, à Paris. C'est quoi ce yoga-là ?
Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Chaudhuri Bikram, qui l'a établi, organisé il y a une trentaine d'années, aux États-Unis. Donc, c'est dans une salle surchauffée, et vous pratiquez. Alors, il est sûr que la montée d'endorphines, et vous éliminez un certain nombre de choses, avec des postures enchaînées, à toute allure. D'ailleurs, ils ont baissé un petit peu la température, parce qu'il y a eu des accidents cardiaques. Bon, donc là, ils ont fait un petit peu attention. Et si vous voulez, là aussi, c'est entre guillemets, le yoga doit être pratiqué à température ambiante. C'est-à-dire, si je suis à Madras avec 45 degrés...
En Inde,
je
donc
fais... En Inde, pardon, oui.
Sur la Great Test.
Vous avez raison de le préciser. Il va faire très chaud. Donc, je vais pratiquer des postures adaptées au climat, au moment de la journée, à ma personnalité, à mes possibilités. Si je suis dans l'Himalaya où il fait moins 20, si je suis dans la neige, je vais faire un yoga qui va permettre de supporter ce climat. Il faut se dire vraiment que le yoga a été pensé, organisé pour que l'homme puisse survivre dans des conditions difficiles. Il faut se remettre 2000 ans en avant, hein. Pas maintenant, mais 2000 ans avant notre ère, 1500
est-ce
ans.
Est-ce qu'on sait qui l'a créé d'ailleurs ?
Non. Je pense que c'est une observation empirique de l'homme par l'homme pour pouvoir survivre à la famine. Aussi, pour voir être habile à fuir, par exemple, des bêtes sauvages aussi. Enfin, il faut se remettre dans un contexte, je dirais, historique, culturel, écologique, d'un moment. Donc, la force du yoga, et ce qui est passionnant, c'est qu'il s'adapte à chacun, où qu'il soit, selon la température et le temps dont on dispose. Et c'est ça qui est passionnant quand on enseigne, quand même. Hein.
Voilà. Et alors, tiens, on va encore vous poser des questions. Forcément, Isabelle Morin-Larbet, on a quelques minutes encore avec vous. Tiens, par exemple, est-ce que le yoga peut être utile pour chasser le trac avant un grand événement, avant un rendez-vous professionnel ? D'autres conseils à venir sur RTL. Et puis, juste après, on entre dans les coulisses de Météo France avec Louis Baudin et un ingénieur de Météo France. À tout de suite sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et toujours avec nous Isabelle Morin-Larbet, qui est professeure de yoga. Allez, quelques derniers conseils, c'était passionnant tout ce que vous nous avez raconté. Imaginons, j'ai un rendez-vous professionnel très important, une échéance très importante. Non, vous inquiétez pas, c'est pas le mercato. Est-ce qu'on peut faire du yoga, des exercices de respiration pour ceux des contrats qui pour chasser le trac?
Tout à fait, hein, bien sûr. Il y a des mouvements, notamment pour arriver à expirer tranquillement avant une intervention, hein, parce que souvent on a le souffle court, hein, on est vraiment bloqué du
diaphragme. Et le cœur qui bat la chamade.
Absolument. Donc de travailler les expirations, d'ailleurs on commence par expirer dans le travail du yoga, va vous permettre de retrouver en fait une souplesse du diaphragme. Donc par exemple de se mettre la tête en bas, les pieds écartés au-delà de la largeur des épaules, vous laissez descendre tout doucement vers le sol, même si vous ne touchez pas le sol, ça n'a aucune espèce d'importance, mais expirer en reculant le nombril profondément, d'où les abdominaux, le transverse, mais qui vous donne absolument une possibilité ensuite d'être posé tranquillement. En tout cas, c'est une grande aide. J'ai des amis qui sont comédiens ou profs de fac, qui sont assez traqueurs, et le yoga marche très très bien.
Bon, on fera ça pour nos invités stressés, on leur fera faire un petit atelier.
tête en bas.
Étirement yoga, tête en bas.
Rentrage de nombril.
Merci beaucoup, merci Isabelle
Morin. Merci pour ce beau voyage.
C'était passionnant, je rappelle que vous présidez la Fédération nationale des enseignants de yoga. À bientôt.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.